Chapitre 12. Tout n'était que silence aux alentours, aussi loin que l'oreille put entendre. La brume des sentiments de Jim, qui glissait entre nous, paraissait agitée par ses débats intimes, et dans les éclaircies de ce voile immatériel, mon regard attentif le découvrait aussi net de contours et aussi évocateur d'aspirations confuses qu'un personnage symbolique de tableau. L'air frais de la nuit semblait faire peser sur nos membres tout le poids d'une dalle de marbre. « Je vois, » murmurai-je, plutôt pour me prouver à moi-même que je pouvais m'arracher à ma torpeur que pour toute autre raison. « D'Avondale nous recueillit juste avant le coucher du soleil, » reprit-il, péniblement. « Il venait droit sur nous, nous n'avons eu qu'à l'attendre sans bouger. » Puis, après un long silence, « Ils ont raconté leur histoire, » fit-il. Et le silence étouffant retomba à nouveau. C'est alors seulement, conclut-il enfin, que je compris clairement ce que je voulais faire. Vous n'avez rien dit, murmurai-je. Qu'aurais-je pu dire, me demanda-t-il, à voix basse aussi. Un léger choc, on avait stoppé pour reconnaître les avaries, on avait pris toutes les mesures pour mettre les embarcations à l'eau sans susciter de panique. À peine le premier canot à flot, un coup de mer avait achevé le navire qui avait coulé comme un lingot de plomb. Que pouvait-on souhaiter de plus net? Il baissa la tête, et de plus affreux. Ses lèvres tremblaient, tandis qu'il me regardait droit dans les yeux. J'avais sauté, n'est-ce pas? Reprit-il avec une stupeur douloureuse. Et c'est cette pensée-là avec laquelle il me fallait vivre. Que m'importait leur histoire? Il joignit un instant les mains, et jeta les yeux dans l'ombre, à droite et à gauche. On aurait dit que nous détroussions les morts, balbutia-t-il. Et il n'y a pas eu de mort, intervins-je. Il s'écarta brusquement de moi sur ces mots. C'est la seule expression qui convienne à son mouvement. Je vis tout à coup son dos contre la balustrade. Il y resta quelques instants, comme s'il eût admiré la pureté et la paix de la nuit. Un massif de fleurs répandait dans l'air humide du jardin son parfum puissant. Jim revint vers moi à pas pressés. « Quelle importance cela avait-il » fit-il avec un bel entêtement. « D'accord, » admis-je. Je commençais à trouver qu'il me dépassait. Mais après tout, étais-je bien sûr de comprendre? Mort ou non, je ne pouvais me laver de cette souillure, expliquait-il. Et il fallait bien que je vive, n'est-ce pas? « Évidemment, si vous l'entendez ainsi, » grommelai-je. « Oh, j'ai été heureux, bien sûr, » admit-il, d'un ton négligent, et l'esprit occupé ailleurs. « Le scandale, » ajouta-t-il lentement, en relevant la tête. « Savez-vous quel fut mon premier sentiment en apprenant la chose ? Ce fut un soulagement. Le soulagement de savoir que ces cris... Vous ai-je dit que j'ai entendu des cris ? Non ? Eh bien, je les ai entendus. Des cris d'appel, chassés par le vent avec l'averse. Imagination, sans doute. Et pourtant, je ne puis guère. C'est stupide. Les autres n'ont rien entendu. Je le leur ai demandé plus tard. Ils ont tous dit non. Non, et pourtant je les entendais encore, moi. J'aurais dû savoir, mais je ne réfléchissais pas. J'écoutais seulement. Des cris très faibles, jour après jour. Puis ce petit métis est venu me parler. Le patna, une canonnière française, remorquée jusqu'à Aden, enquête, bureau de la marine, foyer des marins, tout était prêt pour notre table et notre gîte. Je partis avec lui en jouissant du silence. Alors, il n'y avait pas eu de cri, pure imagination, il fallait bien le croire. Je n'entendis plus rien. Je me demande combien de temps j'aurais supporté. Cela devenait de pis en pis, je veux dire de plus en plus fort. Il retomba dans sa rêverie, et je n'avais rien entendu, soit. Mais les feux, ils avaient bien disparu. Nous ne les avons plus revus. Ils n'étaient plus là. S'ils y avaient été encore, je me serais jeté à la nage, je serais retourné au navire. J'aurais appelé, supplié qu'on me laissât monter à bord. J'aurais eu une chance, au moins. Vous doutez de moi? Comment savez-vous ce que j'éprouvais? Quel droit avez-vous de douter? J'ai failli le faire, même sans rien voir, comprenez-vous? Sa voix faiblit. Il n'y avait pas une lueur, pas la plus petite lueur, affirma-t-il douloureusement. Ne comprenez-vous pas que s'il y en avait eu une seule, vous ne m'auriez jamais vu ici. Vous me voyez et vous doutez. Je fis un signe de dénégation. Cette question de la disparition des feux, pour un canot éloigné d'un quart de mille à peine, avait soulevé de nombreuses discussions. Jim affirmait catégoriquement n'avoir plus rien vu, une fois passée la première averse, et ses compagnons avaient fait la même déclaration aux officiers de la Vondale. Naturellement, l'assistance hochait la tête avec des sourires. Un vieux capitaine, assis près de moi au tribunal, me chatouilla l'oreille de sa barbe blanche en me soufflant. Évidemment, il fallait qu'il mentisse. Mais en fait, personne ne mentait. Pas même le chef mécanicien, avec son histoire de feu de masse abîmant comme une allumette que l'on jette. Au moins n'était-ce pas de sa part mensonge conscient. Un homme agrémenté d'un foie comme le sien pouvait bien avoir vu une étincelle voler dans le coin de son œil, au moment où il jetait un regard furtif par-dessus son épaule. Bien qu'à portée du navire, ils n'avaient plus aperçu la moindre lumière, et ils avaient tiré de ce fait la seule explication plausible, c'est-à-dire que le bateau avait sombré. Consolante certitude. La rapidité du désastre qu'ils avaient prévu justifiait leur précipitation. Rien d'étonnant donc à ce qu'ils n'eussent pas songé à chercher d'autres explications. Et pourtant, la véritable explication était bien simple. À peine Brierley l'eut-il suggéré que le tribunal cessa de s'occuper de la question. Le navire était arrêté, si vous vous en souvenez, et gardait la direction de sa route nocturne. La réflexion du compartiment antérieur de la cale l'avait fait pencher avec son arrière très haut et son avant plongé profondément dans l'eau. Il fit tête au vent dès que la rafale l'atteignit par la hanche, avec autant de netteté que s'il eût été à l'ancre, et ce changement de position fit en un instant disparaître tous ses feux à la vue du canot poussé par la bourrasque. Les feux, si les fuyards les eussent aperçus, auraient peut-être agi sur eux comme une muette prière. Leur éclat, noyé dans l'ombre du nuage, aurait pu avoir cette puissance mystérieuse du regard humain qui sait éveiller les sentiments de remords et de pitié. Ils auraient dit « Nous sommes ici, encore ici. » Et que peut dire de plus le regard du plus abandonné des âmes? Et le navire leur avait tourné le dos, comme pour signifier son dédain de leur sort. Lourdement, il avait fait volte-face, et regardait courageusement le nouveau péril de la mer auquel il avait si étrangement survécu, pour terminer ses jours dans un chantier de démolition, comme s'il eût été, à l'avance, voué à une mort obscure. Quant aux pèlerins, je ne saurais dire quelles fins diverses leur avaient été assignées. Mais le lendemain matin, un immédiat avenir plaça sur leur route une canonnière française qui rentrait de la Réunion. Le rapport de son capitaine était tombé dans le domaine public. Il s'était légèrement écarté de sa direction pour voir ce qui pouvait être arrivé à ce vapeur qui plongeait dangereusement de l'avant sur une mer calme et brumeuse. Un pavillon en berne flottait à la corne d'Artimon. Le Serang avait eu l'intelligence de hisser à l'aube ce signal de détresse. Mais à l'avant, les coques préparaient le déjeuner comme à l'habitude. Les ponts étaient encombrés comme des parcs moutons. Il y avait des gens perchés tout le long des lices et entassés en masse compacte sur la passerelle. Des centaines d'yeux regardaient, mais il ne s'éleva pas un bruit quand la canonnière se rangea par le travers, comme si cette multitude de lèvres eût été scellée par un enchantement. Le capitaine de la canonnière héla le navire sans en obtenir de réponse intelligible. Après s'être assuré avec sa jumelle que cette foule de passagers ne paraissait pas décimée par une infection pestilentielle, il se décida à détacher une de ses embarcations. Deux officiers montèrent à bord du Patna, parlementèrent avec le Serang, et s'efforcèrent de s'entendre avec l'arabe, sans pouvoir démêler quoi que ce fût dans leur récit. En tout cas, l'urgence des secours apparaissait avec évidence. Ils furent très frappés par la découverte du corps d'un blanc mollement étendu sur la passerelle, et, fort intrigués par ce cadavre, comme me l'expliquait bien des années plus tard un vieux lieutenant français que le hasard d'un après-midi m'avait fait rencontrer dans une espèce de café de Sydney, et qui se rappelait parfaitement l'histoire. D'ailleurs, soit dit en passant, cette affaire-là paraissait douée d'une extraordinaire puissance pour braver fuite du temps et défaut de mémoire. Elle semblait garder une sorte de vitalité sinistre dans l'esprit des hommes et rester sur le bout de leur langue. J'ai eu le douteux plaisir de la rencontrer bien souvent, des années plus tard, à des milliers de lieues, de la voir surgir de la conversation la plus banale et ramener à la surface par les plus lointaines allusions. N'est-ce pas encore le fait, ce soir, entre nous? Et je suis pourtant le seul marin ici, le seul chez qui elle éveille des souvenirs. Deux hommes inconnus, l'un de l'autre, mais au courant tous deux de cette affaire-là, ne pouvaient se rencontrer sur un coin du monde sans qu'avant leur séparation, l'histoire ne surgît entre eux avec la fatalité du destin. Je n'avais jamais vu ce Français, et une heure plus tard, nous nous quittions pour la vie. Il ne paraissait pas bien bavard. C'était un gros homme paisible, à l'uniforme râpé, qui se tenait d'un air somnolent devant un verre à demi plein d'un liquide noirâtre. Il portait des épaulettes un peu ternies. Ses joues rasées étaient larges et blêmes. On aurait dit un de ces hommes qui aiment à priser, vous savez. Je n'affirme pas qu'il prisa, mais le geste lui aurait convenu. Il commença par me tendre par-dessus la table de marbre un numéro des Nouvelles du pays dont je n'avais nulle envie. Je dis merci. Nous échangeâmes quelques réflexions apparemment innocentes, et tout à coup, sans que je puisse me rappeler comment la chose se fit, nous nagions en plein dans l'histoire. Et ils me disaient combien ils avaient été intrigué par ce cadavre. Il était, paraît-il, un des officiers désignés pour monter à bord du Patna. Dans l'établissement où nous nous trouvions, on servait toutes sortes de boissons exotiques, l'usage des officiers marins de passage. Mon compagnon prenait de temps en temps une gorgée de la drogue noirâtre, à aspect pharmaceutique, qui n'était sans doute pas plus redoutable qu'un modeste cassis à l'eau. Il gardait un œil sur son verre et hochait doucement la tête. « Impossible de comprendre, vous concevez, m'expliqua-t-il avec un singulier mélange de détachement et de réflexion. Et je n'avais pas de peine à me représenter, en effet, cette impossibilité de comprendre. Aucun des marins de la canonnière ne possédait assez d'anglais pour débrouiller l'histoire bredouillée par le sorang. On menait grand tapage aussi autour des deux officiers. Ils se pressaient contre nous. Il y avait un cercle autour de ce mort, poursuivait-il. Il fallait voir au plus pressé. Ces gens-là commençaient à s'agiter. « Parbleu, une foule pareille, voyez-vous » murmurait-il avec une indulgence philosophique. Pour ce qui est de la cloison, il avait averti son chef que le plus sûr était de la laisser tranquille, tant elle avait vilaine mine. On installa en toute hâte deux haussières, et l'on prit le patna en remorque, en le tirant par l'arrière, ce qui n'était pas absurde en l'occurrence, puisque le gouvernail sortait trop de l'eau pour pouvoir servir à grand-chose, et que cette manœuvre soulageait la cloison, dont l'état, m'expliquait l'officier avec une volubilité placide, exigeait les plus grands ménagements. Je ne pus m'empêcher de penser que mon interlocuteur avait dû formuler son avis sur toutes ces dispositions. On le sentait bon officier, malgré une activité ralentie, et il faisait bien figure de marin, bien que, avec ses gros doigts noués sur le ventre, il rappelât un de ces paisibles prêtres de campagne au nez barbouillé de tabac, dont les oreilles ont accueilli l'aveu des péchés, des souffrances, des remords de générations de paysans, et dont le visage porte une expression simple et calme, comme un voile jeté sur le mystère des détresses et des douleurs. Il aurait dû porter une soutane noire râpée, soigneusement boutonnée jusqu'à son ample menton, plutôt que la tunique à épaulettes et à boutons de cuivre. Sa large poitrine se soulevait régulièrement, tandis qu'il poursuivait son récit. Il me disait que cette affaire avait été une aventure du diable, comme vous pouvez vous le figurer sans doute en votre qualité de marin. Il se pencha vers moi à la fin de sa phrase et plissa ses lèvres rasées pour en laisser sortir l'air avec un petit sifflement. Heureusement, expliqua-t-il, la mer était plate comme cette table, et il n'y avait pas plus de vent qu'ici. La pièce me semblait en effet intolérablement chaude et étouffante. Le visage me brûlait comme si j'eusse été assez jeune pour me trouver embarrassé et rougissant. Naturellement, la canonnière avait mis le cap sur le port anglais le plus proche, où, Dieu merci, leur responsabilité avait cessé. Il gonflait légèrement ses joues plates. Parce que, notez-le bien, pendant tout le temps de la remorque, nous avions laissé deux quartiers-mètres près des haussières, haches en main, pour trancher le câble au cas où, le mouvement des lourdes paupières qu'il abaissait me fit parfaitement comprendre le sens de ses paroles. « Que voulez-vous? on fait ce qu'on peut. » Et pendant un instant, il sut donner à son immobilité pesante un air de résignation. Deux quartiers maîtres, 30 heures, toujours sur le qui-vive. Deux, répéta-t-il, en levant doucement sa main droite et en soulevant deux doigts. C'est le premier geste que je lui eusse vu faire, le premier. Ce fut pour moi l'occasion de noter sur le dos de sa main une cicatrice étoilée, reliquat manifeste d'un coup de feu. Et comme si ma vue eût été aiguisée par cette découverte, j'aperçus aussi sur le côté de sa tête la trace d'une vieille blessure qui commençait un peu au-dessous de la tempe pour se perdre dans les cheveux courts et grisonnants et qui devait être due à une éraflure de sabre ou à un coup de lance. Il joignit à nouveau les mains sur son ventre. J'étais resté à bord de ce... Ma mémoire s'en va. Ah, Patina, c'est bien ça. Patna, merci. C'est drôle comme on oublie. Je suis resté sur ce bateau-là pendant 30 heures. Pas possible, m'écriai-je. Les yeux toujours baissés sur ses mains, il plissa doucement ses lèvres, mais sans siffloter cette fois. On avait jugé convenable, expliqua-t-il en levant tranquillement les sourcils, de faire rester un des officiers pour ouvrir l'œil. Il eut un long soupir. Et pour communiquer par signaux avec la canonnière, comprenez-vous? D'ailleurs, c'était mon opinion. Nous avions préparé toutes nos embarcations, et moi aussi, sur ce navire, j'avais pris toutes les mesures utiles. Enfin, on a fait son possible. C'était une situation délicate. 30 heures. On me prépara mon repas, mais pour ce qui est du vin, va te faire fiche, pas une goutte. De façon singulière, sans rien changer à l'inertie ou à la placidité de son visage, il sut faire passer sur ses traits les marques d'un profond dégoût. Moi, vous savez, quand il s'agit de manger, sans mon verre de vin, il n'y a rien de fait. Je craignais de le voir s'étendre sur ce douloureux grief, car il savait, sans un mouvement des membres ou un pli du visage, exprimer l'irritation que lui causait ce souvenir. Mais il parut l'oublier tout à coup. La canonnière avait remis le navire aux autorités du port, comme il disait, et il avait été frappé du calme avec lequel on avait accepté cet étrange dépôt. C'était à croire qu'on leur apportait tous les jours une drôle de trouvaille comme celle-là. « Vous êtes extraordinaires, vous autres, » concluait-il, sans paraître lui-même, avec son dos appuyé au mur, plus fait pour exprimer l'émotion qu'un sac de farine. Il y avait dans le port, à ce moment-là, un cuirassé et un vapeur de la flotte de l'Inde, et mon compagnon ne cachait pas son admiration pour la façon expéditive dont les équipages de ces deux navires avaient débarrassé le Patna de ses passagers. D'ailleurs, son attitude somnolente ne dissimulait rien de ses sentiments. Elle avait été cette faculté singulière et presque miraculeuse, qui est le dernier mot du grand art, d'obtenir des effets par des moyens impossibles à déceler. 25 minutes, montre en main. 25 minutes, pas davantage. Il dénoua, puis renoua ses doigts, sans ôter les mains de son ventre, en un geste infiniment plus expressif que s'il eût d'émerveillement levé les bras au ciel. Tout ce monde à terre, avec deux petites barques, plus personne à bord qu'un piquet de la flotte et cet intéressant cadavre. 25 minutes. Avec ses paupières baissées et sa tête légèrement inclinée de côté, il semblait rouler en connaisseur un beau morceau de travail sur sa langue. Il vous persuadait, sans plus de démonstration, que son approbation avait une appréciable valeur. Il retomba dans son immobilité à peine rompue et me conta qu'ayant des ordres pour rallier Toulon au plus vite, la canonnière était repartie 2 heures plus tard. De sorte qu'il y a bien des choses dans cet épisode de ma vie qui sont restées obscures pour moi. Chapitre 13. Sur quoi, sans le moindre changement d'attitude, il s'abandonna passivement, pour ainsi dire, au silence. Je restais assis près de lui, quand tout à coup, mais sans brusquerie, comme si l'heure eût été venue, pour sa voix calme et un peu sourde, de sortir de son inertie, il soupira « Mon Dieu, comme le temps passe !» Rien ne pouvait être plus banal que cette remarque, mais elle coïncidait pour moi avec une vision soudaine. C'est extraordinaire, comme nous marchons dans la vie avec des yeux à demi-clos, des oreilles bouchées et des pensées assoupies. Cela vaut mieux peut-être, et c'est sans doute cet engourdissement qui rend à une incalculable proportion d'êtres l'existence si tolérable et si douce. Rares pourtant doivent être ceux qui n'ont jamais connu un de ces brefs moments de réveil, où en un clin d'œil, nous voyons, nous entendons, nous comprenons un monde de choses, où nous sentons tout, avant de retomber à notre aimable somnolence. Je levai les yeux en entendant la voix du lieutenant, et je le vis alors comme si je ne l'eusse encore pas vu. Je détaillai le menton baissé sur la poitrine, les plis raides de la vareuse, les mains jointes, et cette pose passive qui lui donnait de si singulière façon l'aspect d'un être simplement abandonné là. Le temps avait passé, en effet. Il l'avait rejoint et l'avait devancé. Il l'avait pour toujours laissé en arrière, avec quelques pauvres attributs. Des cheveux grisonnants, une lassitude pesante sur le visage tanné, deux cicatrices, une paire d'épaulettes ternies. Le temps avait fait de lui un de ces hommes calmes et solides avec quoi l'on construit les grandes renommées, un de ces êtres innombrables que l'on enterre sans tambour ni trompette sous les fondations des arcs de triomphe. Je suis maintenant troisième lieutenant de la Victorieuse. C'était le vaisseau amiral de l'escadre du Pacifique à l'époque, fit-il, en écartant ses épaules de 2 pouces du mur pour se présenter. Je m'inclinai légèrement sur mon bord de table, il lui dit que je commandais un bateau de commerce mouillé dans la baie des coupeurs de joncs. Il avait remarqué mon bateau, un joli petit bâtiment. Sans se départir de son impassibilité, il fit montre à ce propos d'une parfaite courtoisie. Je crois qu'il alla même jusqu'à pencher la tête, en manière de compliment, tout en répétant avec de larges inspirations « Ah oui, joli petit bâtiment noir, très joli, très coquet. » Après un instant, il tourna lentement les épaules pour regarder la porte vitrée percée à notre droite. « Triste ville, observa-t-il, en jetant les yeux dans la rue. C'était pourtant un jour radieux. Un coup de vent du sud s'était levé, et nous voyions les passants, hommes et femmes, bousculés sur les trottoirs, tandis que de hauts tourbillons de poussière estompaient à demi de l'autre côté de l'avenue les façades ensoleillées des maisons. « Je suis descendu à terre, reprit-il, pour me dégourdir un peu les jambes, mais il n'acheva pas sa phrase et tomba dans les profondeurs de sa méditation. « Dites-moi donc, je vous prie, commença-t-il en se reprenant péniblement, ce qu'il y avait au juste au fond de cette affaire-là. C'était bien curieux, ce mort par exemple, et tout cela, il y avait aussi des vivants, hasardai-je, ce qui était bien plus curieux encore. « sans doute, acquiesça-t-il d'un ton à peine perceptible. » Puis il murmura, comme s'il eût longuement réfléchi, « Évidemment. » Je ne fis aucune difficulté pour lui raconter ce qui m'avait le plus intéressé dans l'affaire. Il me semblait qu'il avait le droit de connaître des détails. N'avait-il pas passé 30 heures à bord du Patna? N'y avait-il pas, pour ainsi dire, pris une succession? N'avait-il pas fait son possible? Il m'écoutait, plus sacerdotal que jamais, avec une mine de concentration dévote, dû sans doute à ses yeux baissés. Une ou deux fois, il haussa les sourcils, mais sans lever pour cela les paupières, comme s'il eût voulu dire « le démon ». Une fois, il fit d'un ton calme et à mi-voix « ah bah ». Puis, lorsque j'eus achevé mon récit, il plissa délibérément les lèvres et laissa échapper une sorte de sifflotement attristé. Chez tout autre, on aurait pu prendre cette moue pour une marque d'ennui, un signe d'indifférence. Mais cet homme-là avait une façon mystérieuse de donner à son immobilité un aspect de sympathie profonde et de la faire sentir aussi pleine de pensées solides qu'un œuf peut l'être de substances nutritives. Il finit par approuver d'un « très intéressant » prononcé d'un accent courtois à voix basse. Sans me laisser le temps de revenir dans mon désappointement, il ajoutait, comme s'il se fût parlé à lui-même, « C'est cela, oui, c'est bien cela. » Son menton parut s'enfoncer plus avant dans sa poitrine, et son corps pesait plus lourdement sur son siège. J'allais lui demander ce qu'il voulait dire, lorsqu'une sorte de tremblement prémonitoire passa sur toute sa personne, comme passe un frémissement à la surface d'une mare stagnante, avant même que l'on ne sente le vent. Et alors ce pauvre jeune homme s'est enfui avec les autres, me demanda-t-il avec une grave tranquillité. Je ne sais ce qui me fit sourire. C'est bien le seul sourire spontané que l'histoire de Jim ait jamais, à mon souvenir, provoqué chez moi. Mais cette conclusion de l'affaire prenait, ainsi énoncée, une allure amusante. « S'est enfui avec les autres », avait-il dit. Et tout à coup, je me sentis pénétré d'admiration pour la subtilité de cet homme. Il avait, du premier coup, démêlé le cas. Il avait mis le doigt sur le seul point qui m'intéressa. Il me semblait que je venais lui demander un avis professionnel. Sa placidité mûrie et imperturbable était celle de l'expert en possession des faits, pour qui nos perplexités ne sont plus que jeux d'enfant. « Ah, la jeunesse, » fit-il avec indulgence. « Mais après tout, on n'en meurt pas. »« On ne meurt pas de quoi ?» demandai-je vivement. « D'avoir eu peur. » Il but une gorgée en prononçant ces paroles. Je m'aperçus que les trois derniers doigts de sa main blessée étaient raides et ne pouvaient se mouvoir indépendamment les uns des autres, ce qui lui occasionnait une certaine maladresse des gestes pour servir son verre. La frousse, tenez, elle est toujours là. Il se touchait la poitrine, près de l'un de ses boutons de cuivre, à l'endroit même où Jim avait frappé la sienne, en protestant de la validité de son cœur. Je dus faire un signe de dénégation, car il insista, si, si, on parle, c'est très joli, mais, au bout du compte, on n'est pas plus malin que le voisin, ni plus brave. Brave, c'est toujours à voir. J'ai roulé ma bosse, poursuivit-il, en proférant l'expression triviale avec un sérieux imperturbable. J'ai roulé ma bosse dans toutes les parties du monde. J'en ai connu des braves, et de fameux, allez, braves. Vous comprenez, au service, il faut bien l'être. C'est le métier qui veut ça, n'est-ce pas ? Me fit-il remarquer avec calme. Eh bien, tous ces braves, et je parle de tous ceux qui sont sincères, bien entendu, avoueraient qu'il y a un moment, un point pour les meilleurs d'entre eux, un point quelque part où on lâche tout. Et c'est avec cette certitude-là qu'on est obligé de vivre, voyez-vous. En face de certaines combinaisons de circonstances, le trac est forcé de venir. Un trac épouvantable. Et pour ceux-mêmes qui n'admettent pas cette vérité-là, il y a une crainte encore, la crainte d'eux-mêmes. Parfaitement. Croyez-moi. Oui, oui, à mon âge, on sait ce dont on parle, que diable. Il avait dit tout cela sans plus d'émotion que s'il eût été l'interprète d'une sagesse théorique. Mais, à ce moment précis, il ajouta encore un poids à l'effet de son détachement en se mettant à tourner lentement ses pouces. « C'est évident, parbleu, » continua-t-il. « On a beau se monter le cou autant qu'on veut, un simple mal de tête ou un dérangement d'estomac suffit à... Tenez-moi, tenez, moi, par exemple. J'ai fait mes preuves. Eh bien, moi qui vous parle, un jour... » Il vida son verre et se remit à tourner ses pouces. « Non, non, on n'en meurt pas, » affirma-t-il résolument. Et je ressentis une déception extrême, en voyant qu'il n'allait pas me conter l'épisode personnel que j'attendais. D'autant que c'était une de ces histoires que l'on ne pouvait guère le presser de raconter, vous comprenez? Nous restions tous deux silencieux. On aurait dit que rien lui plaisait davantage. Ses pouces même restaient immobiles maintenant. Tout à coup, ses lèvres se mirent à bouger. « C'est bien cela, » reprit-il avec placidité. « L'homme est né poltron. C'est une difficulté, parbleu. Ce serait trop facile autrement. Mais l'habitude, la nécessité, voyez-vous, les regards des autres, voilà, on s'y fait. Et puis l'exemple de ceux qui ne valent pas mieux que nous et qui font pourtant bonne contenance. » Sa voix se tut. « Ce jeune homme, remarquez-le, plaidai-je, n'a eu aucun de ces stimulants, au moins au moment précis. » Il leva les sourcils avec indulgence. « Je ne dis pas. » Le jeune homme en question pouvait avoir les meilleures dispositions. « Les meilleures dispositions, » répéta-t-il, en soufflant un peu. « Je suis heureux de vous trouver aussi indulgent, » fis-je. Il était lui-même très porté à l'espoir pour cette triste affaire et je fus interrompu par un raclement de pied sous la table. Le lieutenant soulevait ses lourdes paupières. Je dis bien « soulevait ». Aucune autre expression ne traduirait la ferme décision de ce mouvement de physionomie qui me le révéla enfin tout entier. Je voyais devant moi, autour de l'ombre profonde des prunelles, deux cercles gris, étroits comme deux minces anneaux d'acier. Le regard perçant sorti de ce corps massif donnait une impression de véritable puissance, comme un tranchant de rasoir sur la lame d'une hache de combat. « Pardon, » fit-il avec netteté, en levant la main droite et en se penchant en avant. « Permettez. » Je soutenais que l'on peut rester convaincu que le courage ne vient pas tout seul. Il n'y a pourtant pas là de quoi se démonter. Une vérité de plus n'est pas faite pour rendre la vie impossible. Mais l'honneur, monsieur. L'honneur, c'est une réalité à coup sûr. Et ce que peut valoir la vie quand... Il sauta sur ses pieds avec une lourde impétuosité, comme un bœuf effaré se dresse dans un herbage. Quand l'honneur est parti, ah, ça, par exemple, je ne puis pas vous donner mon opinion. Je ne puis pas vous la donner, monsieur, parce que je n'en sais rien. Je m'étais levé aussi, et nous nous efforcions de mettre une politesse infinie dans nos attitudes, en nous regardant en face, comme deux magots de porcelaine sur une cheminée. Maudit individu, il avait crevé la bulle. La misérable futilité qui guette toutes les paroles des hommes était tombée dans notre conversation et la réduisait à l'état de bruit creux. « Très bien, » acquiesçai-je avec un sourire déconfit. « Mais ne peut-on pas se résigner à laisser les choses cachées ?» Le lieutenant parut prêt à une vive riposte, et quand il ouvrit la bouche, il avait changé d'idée. « C'est trop de subtilité pour moi, » dit-il. « De pareilles questions me dépassent, et je n'y pense pas, monsieur. » Il s'inclina lourdement au-dessus de la casquette qu'il tenait devant lui par la visière, entre le pouce et l'index de sa main blessée, et j'en fis autant de mon côté. Nous nous saluâmes en même temps, frottant cérémonieusement nos pieds l'un devant l'autre, sous l'œil critique d'une espèce de garçon crasseux qui nous regardait comme s'il eût payé pour voir le spectacle. « Serviteur, » fit le Français, avec un nouveau frottement, « monsieur. »« Monsieur. » La porte vitrée battit derrière son large dos. Je vis la bourrasque fondre sur lui et le pousser devant elle, la main sur la tête, les épaules raidies et les basques de sa tunique collées aux jambes. Je restais à ma place, seul à nouveau et découragé. Découragé sur le cas de Jim. Ne vous étonnez pas que l'affaire eût gardé pour moi son actualité au bout de 3 ans. Je venais tout récemment d'en revoir le triste héros. J'arrivais droit de Samarang, où j'avais chargé une cargaison pour Sydney, besogne totalement dénuée d'intérêt, ce que Charley appelait une de mes transactions raisonnables. Et à Samarang, j'avais un peu vu Jim. Il était à ce moment-là, sur ma recommandation, employé chez De Jong comme commis maritime. « Mon représentant sur l'eau, » disait De Jong. « Vous ne sauriez vous figurer l'existence plus dépourvue de consolation, plus impossible à parer d'un semblant de splendeur que celle-là, si ce n'est celle de courtier d'assurance. » Le petit Bob Stanton, Charley l'a bien connu, en avait fait l'expérience. Celui qui s'est noyé plus tard en voulant sauver une femme de chambre lors du sinistre du Sephora. Une collision, par matinée de brume, au large de la côte d'Espagne, vous devez vous en souvenir. Tous les passagers, dans les embarcations, étaient déjà loin du navire lorsque Bob revint au Sephora et grimpa sur le pont pour rechercher cette jeune personne. Je ne sais comment on avait pu la laisser en arrière, mais en tout cas elle était complètement affolée, refusait de quitter le navire et se cramponnait de toutes ses forces au bastingage. Des canots en voyaient nettement l'empoignade. Mais le pauvre Bob était le plus petit des seconds de la marine marchande, et la femme, avec ses 5 pieds 10 pouces, était forte comme un cheval, à ce que l'on m'a dit. Il tirait donc à hue et à dia. La malheureuse hurlait sans arrêt, et Bob lâchait de temps en temps un cri d'alarme pour avertir son canot de se tenir bien à l'écart. Un des hommes m'a dit, en dissimulant le sourire qu'un tel souvenir amenait sur ses lèvres, « Pour nous tous, monsieur, c'était comme un mauvais garnement qui se serait battu avec sa mère. » Et le vieux bonhomme poursuivait, « Nous avons vu enfin que M. Stanton renonçait à lutter. » Il restait près de la jeune femme, les yeux fixés sur elle comme aux aguets. Nous avons pensé plus tard qu'il comptait sur l'arrivée du flot pour faire lâcher prise à la malheureuse et espérait ainsi la sauver malgré elle. Nous n'osions pas approcher, et brusquement le navire s'engloutit, d'un seul coup, après une embardée à tribord. Plop ! L'aspiration fut terrible. Nous ne vîmes jamais rien remonter, vivant ou cadavre. Les tentatives du pauvre Bob, dans le métier de commis maritime, étaient, si je ne m'abuse, le résultat d'une histoire d'amour. Il caressait l'espoir d'en avoir pour toujours fini avec la mer, et restait pénétré de la certitude d'avoir conquis tout le bonheur terrestre. C'est ce bonheur même qui l'avait amené, en définitive, à exercer ses nobles fonctions et un métier où l'avait introduit un cousin quelconque de Liverpool. Il nous racontait ses aventures professionnelles et nous faisait rire aux larmes, sans être autrement fâché de l'effet de ses histoires. Petit et nanti d'une barbe de gnome qui lui descendait à la ceinture, il se dressait au milieu de nous sur le bout des pieds en criant « C'est très joli à vous, bandit que vous êtes, de rire comme cela. Mais je vous dis qu'une semaine de ce travail-là suffit à ratatiner une âme immortelle et en faire une pauvre chose, grosse comme un pois chiche. » Je ne sais comment l'âme de Jim s'accommodait de ses nouvelles conditions d'existence. J'avais eu déjà assez à faire pour lui procurer un emploi qui lui permit de vivre. Mais je suis bien certain que son imagination aventureuse souffrait toutes les affres de la faim. Sûrement, elle ne trouvait nul aliment dans ce nouveau métier. Il était douloureux de voir le pauvre garçon attelé à une telle besogne, dont il s'acquittait pourtant. C'est une justice à lui rendre, avec une sérénité obstinée. Je le regardais s'acharner à son ingrat labeur, avec une confuse notion que c'était une rançon pour les fantaisies héroïques de son imagination. Une expiation pour tout ce qu'il avait souhaité d'une gloire que ses épaules étaient impuissantes à porter. Pour s'être trop complaisamment comparé à un cheval de course magnifique, il se voyait maintenant condamné à une tâche sans gloire, comme un baudet de colporteur. Il s'en tirait bien, d'ailleurs. Il serrait les dents, baissait la tête, et ne disait pas un mot. Oui, c'était bien, très bien même, en dehors de certaines explosions brutales et fantastiques, dans des circonstances déplorables, où la fatale histoire du patenard revenait sur l'eau. Ce malheureux scandale des mers d'Orient ne voulait pas mourir. Et voilà la raison qui m'empêchait toujours de croire que j'en eusse fini pour de bon avec Jim. Je pensais à lui après le départ du lieutenant français. Je ne le revoyais pas dans la fraîche et sombre arrière-boutique de John, où nous nous étions naguère quittés sur une poignée de main hâtive, mais tel qu'il m'était apparu aux dernières lueurs de la bougie, bien des années auparavant, seul en face de moi, sous la longue galerie de l'hôtel Malabar, avec le froid et l'obscurité de la nuit dans son dos. La respectable épée de la loi de son pays était suspendue au-dessus de sa tête. Demain, ou aujourd'hui peut-être, minuit avait sonné bien avant notre séparation, le magistrat à visage de marbre, après distribution préalable d'amendes et mois de prison aux fauteurs de coups et blessures, prendrait en main l'arme terrible pour en frapper son cou incliné. Notre entretien de la nuit ressemblait fort à la veille suprême du condamné. Et il était bien coupable, je me le répétais avec insistance, coupable et justement anéanti, ce qui ne m'empêchait pas de chercher à lui épargner les détails douloureux d'une exécution formelle. Je ne tenterai pas d'expliquer les raisons d'un tel désir. Je ne sais si je le pourrais. Mais si vous ne les devinez pas plus ou moins maintenant, c'est que mon récit a été bien obscur, ou que vous aviez trop sommeil pour saisir le sens de mes paroles. Je ne plaide pas pour ma moralité. Il n'y avait aucune moralité dans l'impulsion qui m'amena à lui soumettre le plan d'évasion Brierly, si je puis ainsi dire, dans toute son ingénuité primitive. Les roupies étaient là, toutes prêtes dans ma poche, et entièrement à son service. Oh, il s'agissait d'un prêt, d'un simple prêt, bien entendu. Et si un mot d'introduction pour un négociant de Rangoon, qui pourrait avoir quelque travail à lui procurer, comment donc, mais avec le plus grand plaisir. J'avais plume, encre et papier dans ma chambre du premier, et tout en parlant, je me sentais déjà impatient de commencer la lettre. Le jour, le mois, l'année, 2h30 du matin. Au nom de notre vieille amitié, je vous serais obligé de fournir un emploi à M. James Untel, en qui, etc., etc. J'étais tout prêt à écrire dans ce sens. S'il n'avait pas absolument conquis ma sympathie, Jim avait su mieux faire. Il était remonté à la source même et à l'origine de ce sentiment. Il avait touché le point sensible, le point secret de mon égoïsme. Je ne vous cache rien, parce que sans cela, ma décision vous paraîtrait plus inexplicable qu'aucun geste humain n'a le droit de l'être, et en second lieu, parce que demain vous aurez oublié cet accès de sincérité au même titre que les autres. Pour parler franc et net, dans cette affaire-là, je restais homme irréprochable. mais les intentions subtiles de mon immoralité furent déjouées par la simplicité morale du criminel. Nul doute qu'il ne fût égoïste, lui aussi. Mais son égoïsme avait une origine plus haute et des visées plus nobles. Je pouvais dire tout ce que je voulais, je m'en aperçus bien vite. Il entendait affronter la cérémonie de l'exécution. Je n'insistais guère, car je sentais, en discutant, tout l'avantage que lui apportait sa jeunesse. Il croyait encore quand j'avais cessé déjà de douter. Il y avait quelque chose de généreux dans la folie de son espoir inexprimé et à peine formulé. « M'enfuir ? Je ne puis y songer, » protestait-il en hochant la tête. « M'enfuir ? Je ne puis y songer, » protestait-il en hochant la tête. « Oh, je vous fais une offre pour laquelle je ne demande ni n'attends aucune espèce de gratitude, » ripostai-je. « Vous me rendrez cet argent à votre convenance quand... »« C'est trop bon à vous, » murmura-t-il sans lever les yeux. Je l'observai attentivement. L'avenir devait lui paraître affreusement incertain. Mais il ne bronchait pas, comme si, en effet, son cœur eût été parfaitement valide. Je ressentais une certaine irritation que j'avais éprouvée déjà à plusieurs reprises dans la soirée. « Toute cette misérable affaire, m'écriai-je, doit être assez amère pour un homme de votre espèce. « oh oui, soupira-t-il à deux reprises, en gardant les yeux fixés sur le sol. C'était déchirant. Il s'élevait tout droit au-dessus de la lumière tremblotante, et je voyais le duvet de ses joues, je voyais la chaude rougeur qui passait sous la peau unie de son visage. Croyez-moi ou non, je vous affirme que c'était affreusement déchirant. Je me sentis poussé à la brutalité. « Oui, dis-je, et je suis parfaitement incapable, permettez-moi de l'avouer, d'imaginer ce que vous pouvez attendre de cette obstination à vider la coupe jusqu'à la lie. « Ce que je peux, » murmura-t-il, sans sortir de sa torpeur. « Je veux être pendu, si je comprends, » lançai-je avec colère. « J'ai essayé de vous expliquer le fond de ma pensée, » reprit-il lentement, comme s'il eût cherché un argument irréfutable. « Mais après tout, c'est moi qui souffre. » J'ouvrais la bouche pour riposter, lorsque je m'aperçus soudain que j'avais perdu toute confiance en moi-même. Le jeune homme devait éprouver à mon endroit le même sentiment, car il se mit à grommeler comme un homme qui se parle à lui-même. Alors ils se sont cachés dans un hôpital. Ils ont filé. Il n'y en a pas un qui ait voulu affronter les conséquences. Olé ! Il fit un geste léger de la main pour signifier son dédain. Mais moi, il faut que je supporte l'épreuve jusqu'au bout. Et je n'y manquerai pas. Non, je n'y manquerai pas. Il restait silencieux, les yeux fixes comme un homme halluciné. Son visage reflétait inconsciemment des expressions fugitives de mépris, de désespoir, de résolution, les reflétait tour à tour comme un miroir magique reflèterait le passage furtif de formes supraterrestres. Il vivait dans un monde de fantômes décevants et d'ombres austères. « Mais c'est absurde, mon cher ami, commençai-je. Il esquissa un geste d'impatience. « Je crois que vous me comprenez mal, fit-il, d'un ton tranchant. « J'ai sauté, c'est possible, mais je ne me sauve pas. « Je ne voulais pas vous blesser, m'excusai-je, en ajoutant gauchement. « Des hommes qui vous valaient bien ont jugé opportun de se sauver quelquefois. « Il rougit jusqu'à la racine des cheveux, tandis que, de confusion, je m'étouffais à moitié avec ma langue. « C'est possible, fit-il enfin. « Je ne vaux pas grand-chose, je n'ai plus rien. « Il faut que je lutte jusqu'au bout contre cette histoire. » Et c'est ce que je fais maintenant. Je me levai de mon siège, tout engourdi. Le silence était embarrassant, et je ne trouvais rien de mieux pour le rompre que cette remarque lancée d'un ton dégagé. Je n'imaginais pas qu'il fût si tard. Vous avez assez de tout ceci, sans doute, gronda-t-il brusquement. Et pour vous dire la vérité, il jetait les yeux autour de lui pour chercher son chapeau, j'en ai assez, moi aussi. Et voilà. Il avait refusé cette offre unique. Il avait repoussé le secours de ma main. Il était prêt maintenant, et derrière la balustrade, la nuit silencieuse paraissait se tapir pour l'attendre, comme s'il eût été pour elle une proie désignée. J'entendis sa voix. Ah, le voici. Il avait trouvé son chapeau. Nous restâmes quelques secondes en suspens. Que comptez-vous faire après... demandai-je à voix très basse. « Aller au diable, probablement, répondit-il, avec un grognement bourru. J'avais, dans une certaine mesure, recouvré mon calme, et je jugeais bon d'affecter un ton dégagé. « Souvenez-vous, je vous en prie, dis-je, que j'aimerais fort vous revoir avant votre départ. Je ne sais pas ce qui vous en empêcherait. Leur maudite enquête ne va pas me rendre invisible, lança-t-il avec une affreuse amertume. Je n'ai pas cette chance-là. » Puis, au moment où nous nous quittions, il se livra à une douloureuse mimique de gestes confus, coupés de balbutiements, et manifesta une odieuse hésitation. Dieu nous pardonne tous les deux. Il avait mis dans sa tête folle l'idée que j'allais peut-être faire quelques difficultés pour lui serrer la main. C'était trop affreux pour s'exprimer en paroles. Je crois que je l'interpellai violemment, comme on hélerait un homme que l'on verrait près de tomber du haut d'une falaise. Je me souviens de nos voix haussées, d'un furtif et lamentable sourire sur son visage, d'une étreinte qui m'écrasait la main, d'un rire nerveux. La bougie vacilla, et s'en fut fini ce soir-là. Un soupir rauque monta vers moi dans la nuit, puis le malheureux disparut je ne sais comment. La nuit dévora sa silhouette. C'était un affreux maladroit, affreux. J'entendis le cri du gravier sous la semelle de ses souliers. Il courait, ce garçon qui n'avait nul endroit où aller. Et il n'avait pas encore 24 ans. Chapitre 14. Je dormis peu, dépêchai mon déjeuner, et renonçai, après une courte hésitation, à ma visite matinale au bateau. Véritable négligence de ma part, car si mon second était, à tout point de vue, un excellent homme, il était aussi victime d'imaginations si noires que, faute de recevoir à point nommé une lettre de sa femme, il devenait fou de rage et de jalousie, perdait goût au travail, cherchait querelle à tous les hommes, et s'en allait pleurer dans sa cabine, lorsqu'il ne faisait pas montre d'une férocité qui risquait de pousser l'équipage à la révolte. Un tel état de choses m'avait toujours paru inexplicable. Ils étaient mariés depuis 13 ans. J'avais un jour aperçu sa femme, et honnêtement, je ne pouvais m'imaginer un homme assez abandonné pour se plonger dans le péché pour l'amour d'une créature aussi dénuée de charme. Peut-être avais-je eu tort d'hésiter à faire voir les choses sous ce jour au pauvre Selwyn. Le malheureux se faisait un véritable enfer sur la terre. Et moi, je souffrais aussi de ses lubies, mais c'est sans doute une sorte de fausse délicatesse qui m'avait retenu. Les relations conjugales des marins fourniraient un sujet bien intéressant, et je pourrais vous citer des exemples, mais ce n'est ni le lieu ni le moment voulu pour aborder pareil sujet, et nous nous occupons de Jim, qui n'était pas marié. Si sa conscience ou son orgueil d'imaginatif, si tous les fantômes extravagants ou les ombres austères, familiers désastreux de sa jeunesse, ne voulaient pas le laisser fuir devant l'échafaud, moi, qui ne puis évidemment être soupçonné d'héberger de tels hôtes, je me sentais irrésistiblement poussé à aller voir rouler sa tête. Je me dirigeais vers le tribunal. Je ne m'attendais guère à être fort impressionné ou fort édifié, à ressentir un gros intérêt ou un effroi quelconque, bien que pour ceux qui sentent la vie devant eux, une bonne frousse soit parfois une discipline salutaire. Mais je croyais moins encore me sentir aussi affreusement déprimé. L'amertume du châtiment tenait ici à l'atmosphère mesquine et glaciale. Ce qui fait la véritable gravité du crime, c'est qu'il constitue un abus de confiance à l'égard de la communauté. Et à ce point de vue, Jim n'était pas un traître de médiocre envergure, mais son exécution était une affaire misérable. Elle n'avait demandé ni vaste échafaud, ni drap rouge. Posait-on un drap rouge à Tower Hill, on aurait dû le faire. N'avait attiré nulle foule atterrée, pleine d'horreur pour le criminel, et prête à pleurer sur sa faim. Ne prenait nul aspect de sombre rétribution. Il y avait dans les rues où je marchais un clair soleil, un éclat trop passionné pour être consolateur, des taches de couleurs partout semées comme dans un vieux kaléidoscope brisé, des jaunes, des verts, des bleus, des blancs aveuglants, la nudité brune d'une épaule découverte, une compagnie d'infanterie indigène formant un groupe brunâtre, surmonté de têtes sombres, et chaussé de bottes lacées et poussiéreuses, un agent de police en uniforme sombre, étriqué et ceinturé de cuir, qui me regardait avec des yeux pleins de douleur orientale, comme si son esprit migrateur eût rudement souffert de ce, comment dites-vous cela, de cet avatar, de cette incarnation imprévue. Dans la cour, à l'ombre d'un arbre solitaire, les villageois impliqués dans l'affaire des coups et blessures restaient assis en groupe pittoresque et évoquaient la chromolithographie d'un campement dans un récit de voyage en Orient. On cherchait l'obligatoire filet de fumée au premier plan et les bêtes de somme au pâturage. Un mur jaune et nu qui s'élevait par derrière dépassait l'arbre et réfléchissait le soleil. Très sombre, la salle du tribunal paraissait agrandie. Haut dans la pénombre, les pancas se balançaient à droite et à gauche. Ça et là, une silhouette drapée, rapetissée par la nudité des murs, se tenait immobile entre les rangées de bancs vides, comme absorbée dans une méditation pieuse. Le plaignant, l'indigène qui avait reçu les coups, un gros homme chocolat à tête rasée, à la grasse poitrine dénudée, à la racine du nez marquée d'une tache d'un jaune brillant, indicatrice de caste, restait assis dans une imposante immobilité. Seuls ses yeux luisaient, roulant dans l'ombre, et ses narines se dilataient et s'affaissaient brusquement, au gré de sa respiration. Brierly se laissa tomber sur son fauteuil, avec un air épuisé, comme s'il eût passé la nuit à courir sur une piste encendrée. Le pieux capitaine de voilier paraissait agité et avait des mouvements nerveux, comme s'il eût contenu avec peine une impulsion à se lever, pour nous exhorter chaleureusement à la prière et à la pénitence. D'une pâleur délicate, sous la chevelure très soignée, le visage du magistrat faisait songer à celui d'un malade condamné que l'on vient de laver, de peigner et de bien caler dans son lit. Il déplaça le vase de fleurs, un bouquet de fleurs rouges semé de quelques points roses et monté sur de longues tiges, puis saisit à deux mains une grande feuille de papier bleuté. Il la parcourut des yeux, posa ses bras sur le bord du bureau et se mit à lire tout haut, d'une voix égale, nette et indifférente. Par Jupiter, toutes mes inepties sur l'échafaud et la chute d'une tête ne m'avaient préparé à rien de pareil. C'était bien pis qu'une décollation. Un lourd sentiment d'irrémédiable planait sur toute la scène, sans l'espoir consolateur de repos et de paix qui suit la chute de la hache. Cette lecture avait la froideur vengeresse d'une sentence de mort et la cruauté d'une sentence d'exil. Voilà au moins l'effet qu'elle me fit ce matin-là, et aujourd'hui encore, il me semble que cette appréciation excessive d'un événement banal comportait un indéniable élément de vérité. Vous pouvez vous imaginer l'intensité avec laquelle je sentais tout ce jour-là. Peut-être est-ce cette raison même qui m'empêchait d'admettre l'irrémédiable de cette sentence. L'histoire continuait à me tourmenter, et je restais harcelé par le désir de connaître l'opinion des gens à son sujet, comme si elle n'eût pas été pratiquement réglée par l'opinion individuelle et internationale par Jupiter. Celle du Français, par exemple. Il avait énoncé le sentiment de son pays, avec la phraséologie froide et précise dont userait une machine, si une machine pouvait parler. La tête du magistrat restait à demi cachée par son papier, son front était couleur d'albâtre. La cour devait répondre à plusieurs questions. D'abord, le navire était-il paré à tous égards et en état de tenir la mer? La cour répondit non. Second point, jusqu'au moment de l'accident, le navire avait-il été commandé avec toute la diligence nécessaire et propre à un marin? Les juges répondirent « Oui, Dieu sait pourquoi » et reconnurent ensuite qu'aucun témoignage ne permettait d'assigner à l'accident une cause certaine. Il s'agissait sans doute d'une épave flottante. Je me souviens qu'à cette même époque, un trois-mâts norvégien chargé de pitchpin avait été porté comme perdu. C'était bien le genre de bateau à chavirer dans une tempête et à flotter pendant des mois la quille en l'air, comme une goule errante sur la mer, à l'affût de navires à tuer dans la nuit. De tels cadavres, à la dérive, sont assez fréquents dans l'Atlantique du Nord, qui est le repère de toutes les terreurs de la mer. Brouillard, iceberg, cadavres de bateaux à intention sinistre et longues tempêtes affreuses qui s'acharnent après vous comme des vampires, jusqu'à ce que vous n'ayez plus ni force, ni courage, ni espoir. Jusqu'à ce que vous ne soyez plus qu'une coquille d'hommes vidée. Mais là, dans ces parages, de tels accidents sont assez rares pour que celui-là parût machiné par quelque malveillant démon. Et d'ailleurs, s'il avait eu une autre intention que de tuer un chauffeur auxiliaire et de faire peser sur Jim une sentence pire que la mort, il apparaissait comme une diablerie parfaitement inepte. Cette idée qui m'assaillait détourna un instant mon attention. Pendant quelques minutes, je ne perçus la voix du magistrat que sous forme d'un murmure confus. Mais tout à coup, elle se fit distincte et détacha des paroles nettes. Au mépris absolu du plus évident des devoirs, disait-elle. La phrase suivante m'échappa, puis, abandonnant, à l'heure du danger, les existences et les biens confiés à leur charge, poursuivait la voix monotone. Elle s'arrêta. Sous le front pâle, deux yeux lancèrent un regard froid par-dessus le bord du papier. Je tournai vivement la tête vers Jim, comme si je me fusse attendu à le voir disparaître sous terre. Il était parfaitement immobile, mais il restait toujours assis, là, rose et blond, avec un air d'attention profonde. « Pour ces raisons, » reprit la voix avec une emphase nouvelle, Jim regardait, les lèvres entrouvertes, tendu vers la sentence qu'allait prononcer cet homme à demi caché derrière son bureau. Les paroles tombées dans le parfait silence s'envolaient avec le vent des pancas, mais j'étais si bien absorbé par leur effet sur Jim que je saisis seulement au passage des fragments du jargon juridique. La cour, Gustave un tel, capitaine, sujet allemand, James un tel, second, licence retirée. Un silence pesa. Le magistrat reposa sa feuille et se pencha de côté, sur le bras de son siège, pour causer d'un ton dégagé avec Brierley. Des gens se levaient pour sortir, d'autres cherchaient à pénétrer dans la salle. Je me dirigeais vers la porte. Une fois dehors, je restai immobile, et quand Jim passa devant moi, pour sortir de la cour, je le saisis par le bras et l'arrêtai. Le regard qu'il me lança me laissa interdit, comme si j'eusse été responsable de son état. On aurait dit une statue vivante de la douleur humaine. « C'est fini, balbutiai-je. « Oui, répondit-il à voix rauque. « Et maintenant que personne... » Il m'arracha son bras d'une secousse. Je le regardais s'éloigner. La rue était longue, et il resta quelque temps en vue. Il s'en allait lentement, les jambes un peu écartées, comme s'il eût éprouvé quelque peine à marcher en ligne droite. Au moment où il allait disparaître, je crus le voir chanceler légèrement. « Un homme à la mer !» fit une voix profonde derrière mon dos. Je me retournai et j'aperçus un homme que je connaissais vaguement, un nommé Chester, d'Australie occidentale. Lui aussi avait regardé Jim s'éloigner. Il possédait un coffre formidable et un dur visage rasé de couleur acajou, avec deux épaisses touffes de poils gris et rudes sur la lèvre supérieure. Il avait été marchand de perles et trafiquant d'épaves, caboteur et baleinier. Il avait, selon sa propre expression, exercé tous les métiers qu'un homme peut exercer sur mer, sauf celui de pirate. Le Pacifique, du nord au sud, constituait son terrain de chasse habituel, mais il s'était cette fois écarté de son champ d'action pour chercher un vapeur d'occasion à acheter. Il avait, à l'en croire, récemment découvert une île à guano quelque part. Mais les atterrages en étaient dangereux, et le mouillage y paraissait rien moins que sûr, pour ne pas dire plus. « Cela vaut une mine d'or, une île comme celle-là, » clamait-il, « en plein milieu des récifs de Walpole. Vous me direz qu'on ne trouve nulle part à mouiller l'ancre à moins de 40 brasses. Mais qu'est-ce que cela peut me faire ? Les ouragans aussi. Mais c'est une affaire hors ligne. Elle vaut une mine d'or, et bien plus encore. » Ce qui n'empêche pas que je ne puisse trouver un seul de ces imbéciles pour se risquer dans l'affaire. Impossible de décider un capitaine ou un armateur à venir voir mon île. Alors je me suis résolu à transporter ma sacrée marchandise moi-même. Voilà dans quel but il cherchait un vapeur, et je le savais en pourparler enthousiaste, avec une maison parsie pour l'achat d'un vieux brick, un anachronisme nautique de 90 chevaux. Nous nous étions rencontrés et nous avions causé plusieurs fois. Il fixait sur Jim un regard critique. « Il prend la chose à cœur, » fit-il, avec un accent de mépris. « Très à cœur, » approuvai-je. « Alors il n'est bon à rien, » opina-t-il. « À quoi rime toute cette affaire-là ? À lui retirer un bout de peau d'âne ? Ce n'est jamais cela qui a fait un homme. Il faut voir les choses comme elles sont, ou sinon ce n'est pas la peine d'insister. C'est que l'on ne fera jamais rien dans le monde. Regardez-moi. » Je me suis fait une règle de ne jamais rien prendre à cœur. Oui, commentai-je. Vous voyez les choses comme elles sont. Je voudrais bien voir arriver mon associé. Voilà ce que je voudrais voir, reprit-il. Vous connaissez mon associé? Le vieux Robinson. Oui, Robinson lui-même. Vous ne le connaissez pas? Le marin qui a, dans son temps, passé plus d'opium en fraude et récolté plus de peaux de phoque comme au monde. On raconte qu'il abordait les pêcheurs de phoques au large de l'Alaska par des brouillards si épais que le Seigneur Dieu seul eût pu y distinguer un homme d'un autre. Robinson, la sainte terreur. Voilà l'homme. Il s'est associé avec moi dans cette affaire de guano, la plus belle qu'il ait rencontrée dans sa vie. Chester approcha ses lèvres de mon oreille. Le cannibale? Oui, c'est bien ainsi qu'on l'appelait, voici des années. Vous vous rappelez l'histoire? Un naufrage sur la rive ouest de l'île Stewart? Oui, c'est cela. Ils étaient descendus sept à terre, et il faut croire qu'ils ne s'entendaient pas très bien. Il y a des gens éternellement grincheux qui ne savent pas faire contre fortune bon cœur, qui ne savent pas voir les choses comme elles sont. Comme elles sont, mon ami. Alors, la conséquence? Elle est trop évidente. Du grabuge, et sans doute aussi un bon coup sur la tête, ce qui est bien fait pour eux, d'ailleurs. Ces gens-là ne sont jamais aussi utiles que quand ils sont morts. On raconte donc qu'une embarcation du Wolverine, un vaisseau de la flotte, le trouva un beau jour à genoux sur les Guémons, nu comme à l'heure de sa naissance, et chantant un air de psaume, ou quelque chose d'approchant. Une neige fine tombait sur son dos. Il attendit de voir le canot à une longueur de rame du rivage, puis il bondit et se sauva. On lui fit la chasse sur la grève pendant une heure, et il fallut qu'un galet lancé par un matelot l'atteignit providentiellement derrière l'oreille et l'étendit à terre, évanoui. Seul, évidemment. Mais c'est comme l'histoire des pêcheurs de phoques. Le Seigneur Dieu sait ce qu'il y a de vrai ou de faux dedans. Les marins du canot ne perdirent pas grand temps en vaines recherches. Ils l'enveloppèrent dans un manteau de mer et l'emportèrent au plus vite. La nuit sombre descendait déjà. Le temps était menaçant et le vaisseau tirait les coups de canon d'appel toutes les 5 minutes. 3 semaines plus tard, mon Robinson était aussi frais que jamais. Il ne se laissa pas troubler par tout le bruit que l'on put faire autour de l'histoire. Il serrait les lèvres et laissait les gens crier. C'était déjà un assez gros ennui que d'avoir perdu son bateau et tout ce qu'il possédait, sans s'attarder aux injures qu'on pouvait lui décocher. « Voilà un homme comme je les aime !» Il fit un geste d'appel vers le bout de la rue. « Il a encore un peu d'argent, et j'ai dû l'intéresser à mon affaire. Il l'a bien fallu. C'eût été un crime de laisser tomber pareille trouvaille. Mais j'étais bien nettoyé moi-même. Cela m'a fait mal au cœur, mais moi, je vois les choses comme elles sont. Et s'il faut partager avec quelqu'un, me disais-je, alors que ce soit au moins avec Robinson. Je l'ai laissé déjeuner à l'hôtel, pour venir à l'enquête, parce que j'ai une idée. Ah, bonjour, capitaine Robinson. Un de mes amis, capitaine Robinson. Un patriarche émacié en complet de toile blanche, et dont le chef tremblant sous le poids des années s'ornait d'un casque à visière doublé de verre, était venu se joindre à nous après avoir traversé la rue d'un pas court et traînant. Il s'appuyait de 2 mains aux manches de son parapluie. Une barbe blanche, striée d'ambre, tombait en masse jusqu'à sa ceinture. « Comment allez-vous? Comment allez-vous? » fit-il avec amabilité, en trébuchant. « Un peu sourd, » m'avertit à mi-voix Chester. « Est-ce pour acheter un vieux vapeur que vous l'avez traîné pendant 2000 lieues ? » demandai-je. « Je lui aurais fait faire 2 fois le tour du monde sur un simple mot, » répondit Chester avec une énergie farouche. « Ce vapeur-là fera notre fortune, mon garçon. Est-ce ma faute si amateurs et capitaines sont de maudits imbéciles dans votre sacrée Australasie? Un jour, à Auckland, j'ai causé 3 heures avec un bonhomme. Envoyez un bateau, lui disais-je encore, envoyez un bateau. Je vous donne la moitié de la première cargaison pour rien, gratis, pour faire un bon début. Il me répond, je ne vous donnerai pas de navire, quand même je n'aurai pas d'autre endroit au monde pour en envoyer un. Voyez l'imbécile. Les rochers, les courants, l'absence de mouillage, la falaise à corps, aucune compagnie ne voudrait courir les risques d'assurance. Il ne voyait pas comment on arriverait à compléter une cargaison en moins de 3 ans. Idiot. J'étais presque à genoux devant lui. Mais voyez donc les choses comme elles sont, lui criai-je. Ne vous occupez pas des rochers et des tempêtes. Regardez seulement ce qu'il y a là-bas. C'est du guano que les planteurs de canne du Queensland se disputeraient sur le quai, je vous l'affirme. Mais qu'est-ce que vous voulez faire avec un imbécile? C'est une de vos bonnes farces, Chester, me dit-il. Une farce. J'en aurais pleuré. Demandez donc au capitaine Robinson. Et à Wellington encore, un autre armateur, un gros type à gilet blanc. Il paraissait croire que je voulais tenter une escroquerie. Je ne sais à quelle espèce de crétin vous croyez avoir affaire, me disait-il, mais je suis occupé pour l'instant. Au revoir. J'aurais voulu l'empoigner à 2 mains et le faire passer par la fenêtre de son bureau, mais je me retenais. Je me faisais mielleux comme un pasteur. Pensez à mon affaire, insistai-je. Repensez-y seulement. Je reviendrai vous voir demain. Il grommela quelques mots, je distinguais qu'il serait absent pour la journée. Dans l'escalier, je me serais pour un peu jeté la tête contre le mur, de vexation. Le capitaine Robinson peut vous le certifier. C'était odieux de penser à toute cette bonne marchandise perdue au soleil, à cet engrais qui ferait pousser la canne à sucre jusqu'au ciel. L'avenir du Queensland, l'avenir du Queensland, vous dis-je. Et à Brisbane, après cela, où j'étais allé risquer une dernière tentative, on m'a fait une réputation de fou, abruti. Le seul homme sensé que j'ai rencontré là-bas, c'est le cocher qui me menait de porte en porte. Un type de la haute, tombé dans la misère sans doute. Hein, capitaine Robinson? Vous vous souvenez de ce cocher de Brisbane dont je vous ai parlé? Ce garçon-là avait un flair prodigieux pour comprendre les choses. Il avait saisi la situation en un clin d'œil. C'était un vrai plaisir de causer avec lui. Un soir, après une misérable journée perdue chez les armateurs, je me sentais si mal en point que je dis « Il faut que je me saoule. Tenez, il faut que je me saoule ou je deviendrai fou. » « Je suis votre homme, » me répondit-il. « Allons-y. » Je ne sais ce que j'aurais fait sans ce gaillard-là, hein, capitaine Robinson. Il allongeait une bourrade dans les côtes de son associé. « Hi, 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 rit l'ancêtre, en jetant un regard morne sur la perspective de la rue, puis en levant avec doute sur moi des pupilles tristes et embrumées. Il pesa lourdement sur son parapluie, puis laissa tomber ses yeux sur le sol. Inutile de vous dire que j'avais à diverses reprises essayé de m'esquiver, mais Chester avait déjoué mes tentatives en empoignant un revers de ma veste. « 1 minute, j'ai une idée. »« Dites-la donc, votre infernale idée, » finis-je par éclater. « Si vous croyez que je vais m'associer avec vous ?»« Non, non, mon vieux, il serait trop tard si vous en aviez envie. Nous avons notre vapeur. »« Vous avez une ombre de vapeur, » ripostai-je. « C'est assez pour commencer. » Nous ne nous montons pas la tête, nous autres, n'est-ce pas, capitaine Robinson? Non, 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 croissa le vieillard. La résolution de son accent exagérait d'excessive façon le tremblement sénile de sa tête. Je crois que vous connaissez ce jeune homme, fit Chester avec un geste de tête vers la rue où Jim avait depuis longtemps disparu. Il a mangé avec vous hier soir au Malabar, à ce que l'on m'a dit. Je répondis que le fait était exact. Et après avoir fait observer qu'il aimait, lui aussi, vivre de façon aisée et avec un train convenable, mais qu'il devait pour l'instant se montrer ménager du moindre de ses sous, car nous n'en avons pas trop pour notre affaire, n'est-ce pas, capitaine Robinson? Il élargit ses épaules et caressa sa grosse moustache, tandis que le fameux Robinson tout sautait près de lui, se cramponnait plus convulsivement que jamais aux manches de son parapluie, et paraissait tout prêt à se résoudre passivement en un tas d'eau desséchée. « Vous comprenez, c'est le vieux qui a toute la galette, » me souffla mystérieusement Chester. Je me suis fait nettoyer en voulant exploiter moi-même cette maudite affaire. Mais attendez un peu, notre heure va arriver. Il parut s'étonner tout à coup des signes d'impatience que je manifestais. Oh, c'est prodigieux, s'écria-t-il. Je lui parle de la plus grosse affaire que l'on puisse voir et il... J'ai un rendez-vous, expliquai-je timidement. Et après, s'étonna-t-il avec une stupeur sincère. Vous pouvez bien patienter un peu. C'est bien ce que je fais déjà, observai-je. Et vous feriez peut-être mieux de m'expliquer ce que vous désirez. De quoi acheter 20 hôtels comme celui-là, grommelait-il entre ses dents, avec tous les farceurs qui y logent. 20 fois. Il leva la tête. J'ai besoin de ce garçon-là, fit-il nettement. Je ne vous comprends pas, avouai-je. Il n'est plus bon à rien, n'est-ce pas? Trancha Chestin. Je n'en sais rien du tout, protestai-je. Comment? Vous venez de m'avouer vous-même qu'il prenait la chose à cœur, insista-t-il. Eh bien, à mon sens, un homme qui... En tout cas, il ne peut pas faire grand-chose. Or, moi, voyez-vous, je cherche quelqu'un, et j'ai justement une situation qui pourrait lui convenir. Je lui donnerai un poste sur mon île. Il eut un hochement de tête significatif. J'ai besoin de 40 coulisses là-bas. Quand même, je devrais les enlever. Il faut bien quelqu'un pour travailler. Oh, je ferai les choses convenablement. On établira un hangar de bois. À toi de tôle ondulée. Je connais un fournisseur de Hobart qui acceptera un effet à 6 mois pour les matériaux. C'est vrai, sur l'honneur. Il y a aussi la question de l'eau. Il faudra que je cherche quelqu'un pour me fournir d'occasion une 12 douzaine de réservoirs en fer blanc, à crédit. On captera l'eau de pluie, n'est-ce pas? Je veux donner la direction à ce garçon-là, en faire le grand chef des coulisses. Bonne idée, n'est-ce pas? Qu'en dites-vous? Mais il se passe des années entières sans qu'une goutte d'eau tombe sur les Walpole, protestai-je, trop stupéfait pour rire. Il se bordit les lèvres et parut embarrassé. Oh, j'arrangerai quelque chose. Ou bien j'emporterai une provision d'eau. Au diable l'eau! La question n'est pas là. Je ne répondis rien. Je venais, en une vision rapide, de me figurer Jim perché sur un rocher sans ombre, plongé jusqu'aux genoux dans le guano, avec le cri des oiseaux de mer dans les oreilles et le globe incandescent du soleil au-dessus de la tête. Devant lui, le ciel vide et l'océan vide n'étaient qu'un vaste frémissement, qu'une seule vibration de chaleur, aussi loin que le regard put porter. « Je ne conseillerais pas à mon pire ennemi, commençai-je. »« Quelle mouche vous pique !» s'écria Chestin. « Je lui donnerai de beaux gages, une fois l'affaire bien partie, s'entend. »« Pas plus difficile que de filer un loch. »« Exactement rien à faire qu'à se promener avec 2 revolvers à 6 coups à la ceinture. »« Sûrement il n'aura pas peur de ce que pourraient faire 40 coulisses, avec 12 pruneaux tout près, et en se trouvant seul armé. »« C'est beaucoup plus beau que cela ne paraît. » Je voudrais que vous m'aidiez à le décider. Non, éclatai-je. Le vieux Robinson leva vers moi ses yeux troubles d'un air effaré, tandis que Chester me considérait avec un mépris écrasant. Alors vous ne voulez pas lui parler en ma faveur, demanda-t-il lentement. Certainement non, protestai-je avec autant d'indignation que s'il eût réclamé mon aide pour tuer quelqu'un. Et d'ailleurs, je suis sûr qu'il n'y consentirait pas. Il est bien mal en point, mais il n'est pas encore tout à fait fou, à mon avis. « Il n'est plus bon à rien, » grommela Chester d'un ton méditatif, « et il ferait bien mon affaire. Si vous vouliez seulement voir les choses comme elles sont, vous comprendriez que c'est juste ce qu'il lui faut. Et puis, mais c'est l'occasion la plus magnifique, la plus certaine. Et tout à coup, furieux, j'ai besoin de cet homme-là. » Il tapa du pied avec un sourire inquiétant. « En tout cas, je puis garantir que mon île ne s'enfoncera pas sous ses pieds. » Et je crois qu'il serait sensible à cette considération-là. Au revoir, fis-je sèchement. Il me regarda comme si j'eusse été un incompréhensible imbécile. Il faut nous en aller, capitaine Robinson, cria-t-il tout à coup dans l'oreille du vieillard. Ces idiots de Parsi nous attendent pour conclure notre affaire. Et saisissant solidement son associé sous le bras, il le fit pivoter et jeta par-dessus son épaule un brusque coup d'œil. « C'est par bonté que je pensais à ce garçon-là, » affirma-t-il avec un air et un accent qui firent bouillir mon sang. « Je ne vous remercie pas, en son nom, » ripostai-je. « Oh, vous avez beau être malin, » ricana-t-il, « vous êtes encore comme les autres, toujours dans les nuages. On verra ce que vous en ferez de votre jeune homme. Je ne prétends pas vouloir en faire quelque chose. »« Ah, vraiment, » bredouilla-t-il. Sa moustache grise se hérissait de colère, et à côté de lui, le fameux Robinson, étayé sur son parapluie, me tournait le dos avec la patience et l'immobilité d'un vieux cheval de fiacre. « Moi, je n'ai pas trouvé d'île à guano, dis-je. Je crois que vous n'en reconnaîtriez pas une si l'on vous y menait par la main, » riposta-t-il vivement. « Et dans ce monde, il faut d'abord voir une chose avant de s'en servir. Il faut en voir le fond et comprendre ce qu'elle vaut, ni plus ni moins. Et trouver des gens qui comprennent aussi, » insinuai-je, avec un regard sur la tête penchée de son associé. Chester renacla. « Il a de bons yeux, soyez tranquille. Ce n'est pas un freluquet. »« Oh non, » approuvai-je. « Allons, venez, capitaine Robinson, » cria-t-il avec une sorte de déférence brutale sous la visière du vieillard. La sainte terreur fit un petit pont d'obéissance. Un fantôme de bateau à vapeur les attendait, et la fortune leur souriait sur ce bel îlot. Ils faisaient un singulier couple d'argonautes, bien bâtis, vigoureux et la mine conquérante. Chester s'avançait posément, tandis que long, décharné, affaissé, cramponné à son bras, l'autre agitait ses jambes desséchées avec une hâte fébrile.